Alors continuons cette méditation et cette contemplation à travers la parole de Dieu de ce mystère inouï de l'Annonciation. Dieu aurait pu nous sauver, disent les docteurs de l'Église, en particulier saint Thomas d'Aquin, Dieu aurait pu nous sauver de n'importe quelle manière. Et il a pris le moyen où il s'est engagé le plus lui-même, où il s'est donné totalement lui-même, où il est venu épouser notre nature humaine dans ce qu'elle a de plus fragile et dans ce mystère des conséquences du péché que nous portons, la souffrance et la mort, afin de nous dévoiler et de nous donner ce qu'il y a de plus intime dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire la vie de la très sainte Trinité. La source de tout, la source des sources, c'est le mystère de la Trinité, c'est-à-dire que Dieu qui est absolument unique dans sa sainteté, dans sa transcendance inaccessible, Dieu est aussi, plus profondément encore que cette unité, à l'intérieur de cette unité, il est amour, comme nous l'a révélé saint Jean, Dieu est amour. Et ce mystère de l'amour de Dieu, eh bien, il s'exprime et il est en vérité une communion interpersonnelle d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la plénitude de l'amour, la plénitude du don de l'amour, la plénitude de la communion, de la transparence, de la réciprocité qui nous est donnée par le mystère de la grâce chrétienne. Et la première qui l'a reçue en plénitude et qui a été créée pour cette plénitude sans aucun obstacle radicalement en elle, c'est la Vierge Marie, celle que l'ange Gabriel désigne par ce nom nouveau que personne ne connaissait, de celle qui a été toute transformée par la grâce, celle dont toute la vie est une vie de grâce, celle qui s'identifie avec le mystère de la grâce, c'est-à-dire la participation à l'amour de Dieu et à sa sainteté. À ces mots, elle fut toute bouleversée, et nous terminions sur ça. Ce bouleversement de la Vierge Marie, il nous montre à quel point elle est humble et à quel point elle était dans la sainte ignorance de ses privilèges et de ce qu'elle était. Il y a différentes révélations privées qui sont énumérées dans les gloires de Marie par saint Alphonse de Liguori, où la Vierge Marie s'adresse à différents voyants, où elle exprime cette profondeur d'humilité, cet abîme d'humilité qui était dans son cœur. Elle se considérait comme la plus indigne de toutes. Et il y a même une citation de saint François de Sales, toutes ces révélations privées, toutes ces méditations, elles reposent sur ce que la Vierge Marie nous dit au début de son Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. » Et saint François de Sales fait un jeu de mots entre humilité et néantité, pour dire que la Vierge Marie avait, aucune créature n'a eu une telle conviction de son néant de créature. Néant de créature, c'est-à-dire par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Et dire que nous sommes toujours un peu en train de vouloir nous vanter de droite et de gauche, alors que par nous-mêmes, nous ne sommes rien. On doit rendre grâce à Dieu de ses dons, mais surtout ne pas nous en glorifier. Et celui qui s'est le plus glorifié des dons que Dieu lui avait faits, c'est Lucifer. Il en a perdu, eh bien, sa gloire et ses privilèges divins. Il y a des textes qui sont extrêmement... C'est important, je crois, dans l'ordre de l'économie divine, eh bien, de comparer ces deux mystères qui sont tellement opposés, celui de Lucifer et celui de la Vierge Marie. C'est l'antithèse que l'on voit exprimée en Apocalypse 12, parce que je vous citais ce premier signe de la femme mystérieuse enveloppée du soleil, couronnée de 12 étoiles, la lune étant sous ses pieds. Et l'autre signe, juste après, Eh bien, c'est voici qu'un autre signe apparut dans le ciel, un dragon rouge feu, et sa queue balait le tiers des étoiles du ciel. Et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Je vous disais que c'était la même parole, la même expression qui était utilisée pour Noé dans le livre de la Genèse, au chapitre 6. Il nous est dit, Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. La corruption généralisée de l'humanité. Et au milieu de cette corruption, il y a une exception, Noé. Verset 8, « Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. » Noé, c'est une préfiguration de la Vierge Marie. Parce qu'il est principe d'une nouvelle création. Dieu a refait la création humaine à partir de Noé après le déluge. Alors cette grâce de la Vierge Marie, elle dépasse évidemment celle de tous les saints et de tous les anges. Vous pouvez cumuler tous les anges, et saint Thomas d'Aquin dit qu'il y a beaucoup plus de bons anges que de mauvais anges. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, d'accord? Donc des myriades et des myriades, comme dit la Bible. C'est innumérable. Et si on compte tous les saints depuis que l'humanité existe, vous cumulez toute cette sainteté, vous n'arrivez pas aux chevilles de la Vierge Marie, de l'Immaculée Conception. Alors l'Immaculée Conception, c'est une grâce qu'elle a complètement reçue, mais elle n'a cessé de coopérer à cette grâce. Il y a des tas de révélations privées où la Vierge Marie dit à quel point elle s'est abaissée, à quel point elle s'est fait la dernière, à quel point elle a souffert pour coopérer à toutes les grâces qui lui étaient données, le sommet étant ses souffrances au pied de la croix. Elle est Notre-Dame des sept douleurs. L'Immaculée Conception, ne l'oublions pas, est la Vierge fidèle, la Vierge qui est crucifiée avec son Fils, spirituellement, affectivement, et qui offre l'agneau, et qui vit intérieurement toute la passion de Jésus, jusqu'à achever cette passion dans son propre cœur, parce que c'est elle qui souffre quand le cœur de Jésus est percé sur la croix. Jésus étant déjà mort, elle ne peut pas souffrir. On voit là la coopération intime que Dieu a voulu, que Dieu le Père a voulu, entre le sacrifice de Jésus et l'offrande de la Vierge Marie. À la croix, la dernière blessure, la seule blessure mortelle en soi, eh bien, c'est Marie qui pâtit cette blessure, c'est elle qui souffre, puisque Jésus a déjà rendu son âme au Père. Voici que tu concevras et enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors c'est deux mystères. Le mystère de la conception qui est un enfouissement mystérieux dans les entrailles de la femme et l'enfantement, la mise au monde, le don au monde. Alors c'est une double expression qu'on trouve dans toutes les nativités qui nous sont décrites dans l'Ancien Testament, souvent des nativités qui touchent des femmes stériles. Toutes les annonciations de nativité dans l'Ancien Testament sont ordonnées au mystère de l'Annonciation, sont des préfigurations du mystère de l'Annonciation. C'est comme, par exemple, l'annonce à Abraham de la naissance d'Isaac dans le livre de la Genèse. C'est l'apparition aux chaînes de Mamré. En Genèse chapitre 18, le Seigneur lui apparut aux chaînes de Mamré tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes mystérieux, vous savez, représentés par Roublev dans l'icône de la Trinité. Donc trois anges qui annoncent le mystère de la très sainte Trinité, la fécondité parfaite du mystère de Dieu. Voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. » Mystérieusement, ils sont trois et Abraham se prosterne devant eux comme si c'était Dieu lui-même et il s'adresse à eux au singulier, le mystère de l'unité et de la Trinité. On voit l'empressement de la charité d'Abraham et de son hospitalité. Il leur apporte de l'eau, il demande à Sarah. Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, « Prends trois boisseaux de farine, pétris et fais des galettes. » Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon, il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Et ils demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» Ils répondirent, « Elle est dans la tente. » L'autre prit, « Je reviendrai chez toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. » Depuis tant d'années, Abraham a 99 ans, hein, il est sorti de Haran, il avait 78 ans. C'est impressionnant, l'attente dans la foi d'Abraham qui ne s'est pas mis à douter et à rouspéter parce que Dieu prenait tant de temps pour l'accomplissement de sa promesse de lui donner enfin un enfant issu de son mariage légitime avec Sarah. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même, se disant, « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir et mon mari qui est un vieillard. » Mais le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Et là, vous voyez, c'est le nom de Dieu qui apparaît au moment où on attendrait le nom des trois anges. Nous voyons l'incrédulité de Sarah. Toutes ces annonciations dans l'Ancien Testament, elles sont tellement imparfaites. Ça nous met davantage en pleine lumière la perfection intérieure de la foi de la Vierge Marie, qui est tout entière dans son obéissance à Dieu, dans sa vie intérieure contemplative, dans son accueil du mystère divin. Je reprends le livre de l'Évangile de Luc. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous vous souvenez, Jésus en hébreu, c'est Yeshua ou Yehoshua. C'est le même nom que Josué. Nous avons le début du nom de Yahvé dans le J qui représente le Yod en hébreu. C'est la première syllabe du nom sacré que Dieu a révélé à Moïse. Je suis qui je suis. Et ce nom sacré révélé par Dieu à Moïse au buisson ardent, il exprime la sainteté et la transcendance de Dieu. Jésus, c'est un nom théophore, un nom porteur de Dieu. Et ça veut dire donc Dieu est salut ou Dieu sauve en hébreu. Il sera grand. Et l'expression « il sera grand », elle est aussi réservée par Dieu. Grand d'une manière absolue, sans avoir un substantif après, c'est un titre qui est réservé simplement à Dieu. Et on l'appellera « Fils du Très-Haut ». Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. La réalisation des prophéties messianiques qui ont été faites au roi David. C'est de ta descendance que sortira le sauveur de mon peuple Israël. Et il règnera sur la maison de Jacob, le père des 12 tribus d'Israël, le troisième patriarche, Abraham, Isaac, Jacob, à jamais, et son règne n'aura pas de fin, une royauté éternelle. Une royauté qui ne vient pas d'en bas, mais qui vient d'en haut, qui est un don de Dieu. Vous savez que le ministère de la royauté n'avait pas été voulu par Dieu au point de départ. Le peuple était gouverné par des juges sages. et le peuple d'Israël a été infidèle. Il n'a pas eu confiance dans ce gouvernement de Dieu. Ça l'a démangé de faire comme les autres nations, d'avoir un roi comme les autres nations. Et par miséricorde, Dieu a dit au prophète Samuel, eh bien, tu vas leur donner, tu vas répondre à leur demande. C'est moi qui me rejette, mais tu vas répondre à leur demande, tu leur donneras un roi. Donc Dieu dit, c'est parce qu'ils me rejettent, je vais malgré tout leur concéder un roi. Et Dieu, dans sa miséricorde, c'est ce qu'il va faire, et bien il va dire, c'est à travers cette attente du roi que je vais moi répondre en donnant le Messie. C'est par là que je manifesterai ma miséricorde dernière dans le salut. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? Donc nous voyons encore une fois la coopération de la Vierge Marie. On voit que la question de la Vierge Marie ne porte pas comme Zacharie. Zacharie avait dit, comment le saurais-je ? Je veux un signe pour croire. La Vierge de Marie ne demande pas un signe pour croire. Sa question ne porte pas sur le fait de la venue du Messie, mais sur la manière dont elle va devenir la mère du Messie. Pourquoi ça ? Eh bien, parce qu'elle connaît l'oracle du prophète Isaïe. Le Messie doit naître d'une vierge et qu'elle s'est consacrée dans la virginité à Dieu. Et quand elle dit, parce que quand elle dit « je ne connais pas d'homme », vous voyez, ça c'est mystérieux, parce qu'on nous a dit « elle est fiancée à Joseph », mais il faut tout de suite dire que les fiançailles dans la tradition juive, c'est pas du tout comme nos fiançailles à nous. C'est pas une étape préparatoire, facultative, et vous n'êtes pas obligé de vous marier, vous pouvez rompre vos fiançailles. Tandis que dans le judaïsme, c'était la première étape et la plus importante du mariage. C'est pour ça que Joseph est déjà appelé l'époux de Marie. Ne crains pas de prendre chez toi ton épouse. Parce que les fiançailles dans le judaïsme, c'était la première étape qui s'appelait Kiddushim, ce qui veut dire la sanctification. Le contrat juridique était réglé. Ils étaient mariés devant Dieu et devant les hommes. La seule chose qui manquait, c'était la cohabitation. Donc le mariage avait déjà été contracté et célébré, mais ils ne vivaient pas encore ensemble. La jeune fille vivait encore chez ses parents pour un an avant de rejoindre son époux. C'est pour ça que Saint Joseph, dans l'évangile de Matthieu, on nous dit que, étant mis devant le fait de cette grossesse sans n'y être pour rien et sans avoir été averti par personne, on nous dit... Il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il résolut de la répudier en secret. On parle de répudiation, ce qui veut bien dire que ce n'était pas des fiançailles comme nous, que c'était déjà le mariage. Et la Vierge Marie dit « je ne connais pas d'homme, je ne connais pas d'homme ». En hébreu, ça exprime les relations sexuelles. Donc derrière cette négation « je ne connais pas d'homme » se cache caché la consécration virginale de la Vierge Marie. Il n'était pas envisageable pour elle d'avoir des relations avec quelque homme que ce fût, puisqu'elle était consacrée dans sa virginité. Et selon la tradition de l'Église, cela n'était pas possible si Joseph n'avait pas participé lui aussi dans cette consécration. Et d'ailleurs, c'était dans la loi de Moïse. On trouve ça en particulier aussi dans les écrits de Qumran, si une femme veut faire un vœu de chasteté, il faut qu'elle demande à son mari. Donc a fortiori pour un vœu de virginité. Donc il y a un grand mystère qui unit la Vierge Marie et Saint Joseph. Et vous voyez, parce que j'ai pas commenté ça, mais c'est tellement important, on nous dit « à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph ». Quand vous vous interrogez sur qu'est-ce que c'est que les fiançailles dans la Sainte Écriture, cette expression qui est utilisée en grec, le verbe « mnestesomai », il vous renvoie directement à un seul texte prophétique, c'est chez le prophète Osée. Il faut qu'on lise ce texte parce qu'il est extrêmement fort et extrêmement important. Alors, si vous voulez prendre dans vos Bibles, dans les petits prophètes, donc après les grands prophètes, après Isaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, regardons le prophète Osée, chapitre 2. Le Seigneur déplore d'abord, au début de cette prophétie, l'infidélité, l'idolâtrie du peuple d'Israël, son infidélité à l'adoration de Dieu et à sa consécration, qui sont désignés par des termes d'adultère et même de prostitution, ce qu'il y a de pire dans l'alliance matrimoniale, qui est un symbole de l'alliance de Dieu avec notre cœur. Donc au milieu de toutes ces infidélités d'Israël, que dit Dieu ? C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert, et là je parlerai à son cœur. Le Seigneur a fait notre cœur pour lui. C'est quoi ce cœur ? C'est qu'il y a une capacité d'aimer en nous qui n'a pas de limite. On a une soif d'aimer dans la pureté et la vérité, dans le respect, dans le don, dans la transparence. On a cette aspiration en nous. Et tant qu'on n'a pas trouvé ce véritable amour, eh bien on court à droite, à gauche. Et lorsqu'on trouve l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, qui ne nous juge pas, qui ne nous condamne pas, qui nous respecte infiniment et qui veut nous combler de ses bénédictions, eh bien nous avons trouvé, comme dit la Sainte Écriture, la source d'eau vive qui désaltère pour la vie éternelle. Je parlerai à son cœur. Le Seigneur veut parler à notre cœur. Et le moment le plus important, c'est celui qui suivra cet enseignement quand nous irons en adoration devant le Saint-Sacrement. Recueillons tout ce mystère, accueillons tout ce mystère de la Vierge Marie dans cette adoration. Là, je lui rendrai ses vignobles et je ferai du Val d'Accor une porte d'espérance. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Égypte. À la sortie d'Égypte, la libération. Il adviendra en ce jour-là, oracle du Seigneur, que tu m'appelleras mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon Baal, le nom des idoles païennes. Alors, voilà le verset le plus important, c'est le verset... Il y a le verset 20, « Je conclurai pour eux une alliance en ce jour-là. » Et puis, je passe au verset 21, voilà... où se trouve le verbe « fiancé » qui est utilisé en Matthieu et en Luc. « Je te fiancerai à moi pour toujours. » Et on peut traduire « je t'épouserai » puisque en langage hébraïque, c'est le contrat du mariage. « Je t'épouserai pour toujours, je t'épouserai dans la justice et dans le droit. » Dans la tendresse et la miséricorde, je t'épouserai dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. C'est la soif du cœur de Dieu de vivre avec nous une alliance personnelle d'épouse et d'époux. Une alliance sponsale. Vous savez, saint Thomas d'Aquin, quand il commente le credo au peuple de Dieu, « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant », quand il veut commenter ce verbe « Je crois en Dieu Tout-Puissant », saint Thomas d'Aquin, il renvoie à ce texte d'Osée. Et il dit que par le baptême et par la foi, nous sommes consacrés à Dieu et que Dieu veut vivre avec nous quelque chose comme une alliance d'époux et d'épouse. L'alliance de l'époux et de l'épouse, elle est exclusive. Dieu se donne totalement à chacun d'entre nous. On est unique pour lui. Et il veut vraiment que nous soyons, qu'il soit lui unique pour nous. Il veut qu'on le reconnaisse comme le seul bien de notre cœur, le seul qui est capable de combler notre besoin d'être aimé en vérité dans une relation personnelle et libre, dans un don personnel d'amour, dans une réciprocité d'amour. Donc c'est cette jalousie de l'amour de Dieu qui ne peut pas supporter que notre cœur se laisse tromper par des biens fallacieux, les biens terrestres, les biens charnels. Ce sont des biens trompeurs et fallacieux qui ne peuvent pas remplir notre cœur. Dieu seul peut le remplir. Je te fiancerai à moi pour toujours, une alliance qui demeure pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. je te fiancerai à moi dans la fidélité. Alors, le mot émouna en hébreu, ça peut se traduire fidélité, mais aussi foi, et c'est comme ça que les pères de l'Église ont compris. Je te fiancerai à moi dans la foi. C'est la foi, c'est aussi la fidélité, et c'est la confiance. Il y a ces trois sens dans le mot émouna. Foi, confiance, fidélité. La Vierge Marie, dans le mystère de l'Annonciation, ses fiançailles avec Joseph, Joseph est le gardien de la Vierge Marie. Il n'y avait pas d'institution de virginité consacrée en Israël. Marie est la première Vierge consacrée de l'histoire de l'humanité dans la grâce de Dieu. Et la Vierge Marie est consacrée dans sa virginité. Les fiançailles de Joseph qui respectent cette virginité de Marie, qui en est le gardien, eh bien, il cache un mystère plus profond, et c'est les épousailles de Dieu avec le cœur de la Vierge Marie, c'est-à-dire cette jalousie de l'amour de Dieu sur la Vierge Marie, qui s'est livrée totalement à Dieu et qui règne totalement, Dieu qui règne totalement dans le cœur de la Vierge Marie. Et cette foi de la Vierge Marie, elle va aboutir au mystère de l'incarnation. Elle porte sur le Verbe de Dieu, le Fils du Dieu vivant, qui est donné à la Vierge Marie et qui nous est donné à chacun d'entre nous. Songeons bien qu'à chaque fois que nous recevons Jésus dans la Sainte Communion, c'est le même Jésus qui a été donné à la Vierge Marie. C'est le même Jésus. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est le même Jésus qui veut demeurer en nous et nous transformer de l'intérieur. La seule différence, c'est que nous, on n'est pas immaculés et qu'on n'arrive pas à être au diapason et que, malheureusement, il y a beaucoup de retard en nous et il y a beaucoup d'imperfections et malheureusement aussi de péchés qui empêchent la grâce de Dieu de s'enraciner en nous et de triompher en nous et de rayonner en nous. Mais nous sommes en voie de sanctification. Alors, je continue. Comment cela se fera-t-il, car je ne connais pas d'homme? On voit cette solitude de la Vierge Marie. Il n'y a que Dieu dans le cœur de la Vierge Marie. Et on voit tout le contraste avec les annonciations qui se produisent dans l'Ancien Testament. J'ai cité celle qui a été faite à Abraham avec le rire de la pauvre Sarah. Mais on peut voir aussi dans le livre des Juges au chapitre 13, lorsqu'il s'agit de l'annonce de la naissance de Samson, très rapidement, livre des Juges, chapitre 13, qu'est-ce qu'il se passe? Il y avait un homme de Soréa du clan de Dan nommé Manoah, sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant. Mais désormais, prends bien garde, ne bois ni vin ni boisson fermentée, ne mange rien d'impur, car tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car l'enfant sera nazir de Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. La femme s'en alla à dire à son mari, « Un homme de Dieu m'a abordé, qui avait l'apparence de l'ange de Dieu, tant il était majestueux. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. » La Vierge Marie, elle est dans le silence complet. Elle n'a rien dit, ni à Joseph, ni à ses parents. On voit cet absolu de la consécration à Dieu. Ce silence intérieur de la Vierge Marie, qui s'abandonne totalement à Dieu dans l'intériorité de son cœur, qui comprend que la grâce est d'abord un mystère de consécration intérieure et d'adoration, qui exige le silence. Marie ne s'est pas dispersée, elle est restée à garder ce mystère dans son cœur, et puis elle part aussitôt se mettre au service de sa cousine Élisabeth. Alors je continue. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » C'est là que l'ange Gabriel dévoile le plan de Dieu. Le mystère de l'incarnation, que cette conception en Marie eh bien, elle se réalise par l'opération, par la puissance de l'Esprit Saint, à travers la foi de la Vierge Marie. Vous savez que c'est la même expression, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, c'est la même expression qui est utilisée pour dire comment la présence sainte de Dieu s'est emparée du temple de Jérusalem. Nous trouvons tout à la fin du livre de l'Exode. Après la consécration du sanctuaire, Dieu prend possession du sanctuaire. À toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les enfants d'Israël se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils attendaient. Pardon, c'est juste avant, verset 3. Moïse ne put pénétrer dans la tente de réunion à cause de la nuée qui reposait sur elle et de la gloire du Seigneur dont la demeure était remplie. Le temple dont Jésus parlait, lorsque Jésus réalise la purification du temple de Jérusalem, le temple dont il parlait, c'était son corps. Si le temple de Dieu, si le Saint des Saints était le lieu le plus saint pour Israël, nous avons, par le mystère de l'incarnation, infiniment plus, puisque c'est toute la sainteté de Dieu, toute la sainteté de Dieu, qui vient à nous, qui se met à notre niveau, à notre portée, et qui vient nous rejoindre. C'est ce qui se réalise, vous voyez, pour comprendre davantage ce mystère, entrer davantage dans ce mystère de l'incarnation, dans ce mystère de l'annonciation, eh bien, relisons le début de la première épître de Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, le Logos, le fruit de la contemplation du Père, le secret de son amour, le bien-aimé du Père. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Alors continuons. L'ange ajoute, et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils en sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. L'ange Gabriel donne à la Vierge un signe qu'elle ne demandait pas, mais qui va être pour elle l'occasion de manifester toute sa charité fraternelle à l'égard d'Élisabeth et de permettre aux sacerdoces en Israël, à travers Élisabeth, de famille sacerdotale, de pouvoir rendre son témoignage à travers cette effusion de l'Esprit qu'elle va connaître et que va connaître Jean-Baptiste au ventre d'Élisabeth. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je me permets de vous redonner ce verset tel qu'il nous est révélé en grec. Parce que la Vierge Marie n'a pas dit exactement « Je suis la servante du Seigneur » comme on le dit sans cesse. En grec, c'est « Idou redoule tu kuriou genoitomoi kata toremasu » Et il n'y a pas « Je suis ». Idou Hedoulet, c'est « Voici la servante du Seigneur, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est quoi la différence? Quand vous dites « Je suis », vous vous mettez en avant. Il y a votre « je », il y a votre « moi »,« je suis ». C'est moi qui arrive, avec mes gros sabots. La Vierge Marie, c'est un abîme d'humilité, d'effacement, de service, d'abandon. Elle n'a même pas dit « Je suis », elle a dit « Voici ». Parce qu'elle se, et elle se considère, oui, c'est ça qui est complètement fou. Voici la servante. Et c'est plus que la servante, parce que en grec, c'est doulet. Vous savez qu'il y a le mot diaconesse, ça veut dire servante. Diacre, féminin diaconesse, serviteur, servante. Et il y a le mot doulos, doulet, c'est l'esclave. La Vierge Marie n'a pas dit voici la servante. Elle a dit, voici l'esclave. L'esclave, c'est que Tout est donné, elle ne garde, l'esclave n'a plus de propriété pour lui. C'est très fort ça. Alors on n'ose pas en français, vous voyez, parce que esclave, ça a une connotation très négative, d'accord? Alors c'est là qu'il faut faire toute la différence entre l'esclavage d'amour dont parlent les docteurs de l'Église à l'égard de Jésus et de Marie, et l'esclavage du péché. Et entre les deux, il y a l'esclavage physique. L'esclavage physique depuis la nuit des temps, depuis les hommes préhistoriques, ceux qui avaient vaincu militairement, ils transformaient l'autre tribu en esclaves, d'accord? Et vous deviez travailler gratis pour votre maître qui pouvait vous frapper. Bon, c'était une perte totale de liberté. Une perte de liberté. Bon, ça, c'est l'esclavage du corps. Jésus nous dit que le véritable esclavage, qui est pire que tout, c'est l'esclavage du péché. Par le péché, on devient esclave du démon. Et c'est le plus terrible. Vous voyez, je reviens sur cette notion d'esclavage physique. Je pense à ce grand philosophe stoïcien dans l'Empire romain qui était un esclave qui s'appelle Épictète. Et c'était un grand philosophe. Et il se moquait des sénateurs romains en leur disant « Moi, je suis dans des chaînes, mais par la philosophie, par ma sagesse, j'ai acquis la domination de mes passions et je suis libre intérieurement. Vous, vous avez une liberté extérieure, vous êtes des sénateurs, vous avez le pouvoir politique, votre liberté est l'extérieure, mais intérieurement vous êtes des esclaves, parce que vous êtes des esclaves de l'opinion des hommes et des élections, et vous tremblez, vous avez peur de perdre le pouvoir, donc vous n'êtes pas libre intérieurement. » Vous voyez la distinction entre esclavage intérieur et esclavage extérieur. Bon. Maintenant, de quoi s'agit-il que cette autre forme d'esclavage qui n'a rien à voir, qui est l'esclavage d'amour, c'est qu'on reconnaît, et c'est un esclavage qui suppose la liberté, d'accord? Et ça veut dire que Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quand on ne veut plus faire sa volonté propre, quand on n'a qu'un désir, c'est que ce soit la volonté d'amour de Dieu qui se fasse en nous, eh bien on peut parler d'un esclavage d'amour, qui est un esclavage qui rend libre parce que c'est à l'égard de Dieu. Et Dieu, c'est l'anti-tyran. Le démon est un tyran parce qu'il rend les hommes esclaves, tandis que Dieu, c'est un maître qui libère. Il nous libère de nous-mêmes, il nous libère du monde et il nous libère du démon. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. C'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir sur cette notion d'esclavage. Ça appartenait au vocabulaire du XVIIe siècle, de Saint-Louis-Marie Régnon de Montfort, il en parle beaucoup. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Mais ça veut dire donner son cœur à Dieu, ne vouloir faire que la volonté de Dieu, et dire « Jésus passe devant moi ». Vous voyez, pour mieux bien comprendre, il faut revenir à Jean 10. Jésus qui nous dit « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis ». Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. La brebis, elle ne mène pas son propre chemin. La brebis qui veut mener son propre chemin à sa fantaisie, c'est la brebis perdue. Elle s'est égarée hors du troupeau, elle est tombée dans un fossé, elle s'est prise ou elle a été mangée par le loup. Voilà ce que c'est quand la brebis veut vivre à sa guise, se soustraire à la protection du bon berger, elle se fait manger par les loups. Tandis que la brebis qui a compris l'amour du bon berger, la force du bon berger, elle écoute sa voix et elle le suit. Elle ne va pas marcher devant le berger, elle marche derrière le berger. Et c'est quand même bouleversant, vous voyez, que la Vierge Marie est réellement mère de Dieu. Alors nous proclamons que Jésus est réellement mère de Dieu. Elle n'est pas mère seulement de l'humanité sainte de Jésus. Parfois on entend des protestants dire ça. Bon, là, ça les gêne de dire Marie, mère de Dieu. Ah ben non, elle est mère de Jésus comme homme, et pas de Jésus comme Dieu. Le problème, c'est que si vous dites ça, vous séparez l'humanité et la divinité dans le Christ. Or, nous savons que par le mystère de l'incarnation, Jésus est vrai Dieu et vrai homme, inséparablement. Vous ne pouvez pas séparer l'humanité et la divinité de Jésus. Jésus, il est un seul être. Il est le bien-aimé du Père, l'un de la Trinité. Et il est vrai Dieu et vrai homme. La Vierge Marie, en étant mère de Jésus, bien sûr à cause de son humanité, elle devient aussi mère de Dieu. Et ça, c'est bouleversant de se dire que Dieu qui est esprit, qui est 3 × 5, qui est infini, qui est éternel, a voulu se contracter, se faire petit dans les entrailles de la Vierge Marie. C'est bouleversant. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut s'abaisser à ce point devant sa créature. C'est désarmant. Et c'est ça que je trouve très beau, que Dieu ait pris ce moyen extraordinaire de douceur et d'humilité. C'est pour nous guérir de la peur. Au fond de nous, depuis le péché originel, il y a une peur de Dieu comme un juge. Et le démon joue sur ça, sur cette peur de Dieu qui vient du péché originel. Pour nous en guérir, pour que nous n'ayons plus peur, le Dieu très saint, tout puissant, le Dieu des armées, se fait le petit enfant de la Vierge Marie. Qui peut avoir peur d'une femme enceinte et d'une femme qui a son bébé dans ses bras? C'est plein de douceur, ça nous attire, on n'éprouve aucune crainte, ça désarme notre crainte. Pour désarmer notre crainte, Dieu s'est fait le petit enfant, il se donne à nous comme un petit enfant à travers le cœur immaculé de la Vierge Marie. Et ça c'est bouleversant, c'est merveilleux, ça doit nous remplir d'admiration, comme saint François d'Assise qui est à l'origine de la dévotion à la crèche, cet émerveillement devant le mystère de Noël, comme aussi saint Charles de Foucault l'a été durant toute sa vie de prière et de sacrifice. Et elle dit ensuite, Genoitomoi kata toremasu, fiat mihi secundum verbum tuum. Fiat, ça nous rappelle le fiat lux, le fiat de la Vierge Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça reprend en latin le fiat de Dieu au moment de la création, parce que c'est une nouvelle création. Par le oui de Marie, par le oui plein d'amour de la Vierge Marie. Quand Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, elle s'abandonne, elle se remet entre les bras du Père. Et elle se donne avec tout son cœur, toute sa foi, mais aussi avec tout son corps, puisqu'il n'y a rien qui ne mobilise plus une femme que la maternité. Les biologistes vous diront ça, que toutes les hormones, tout le corps de la femme va se mettre au diapason de cette nouvelle vie qui est en elle et qui prend le meilleur en elle. J'ai accompagné comme ça une jeune femme enceinte, c'était assez étonnant, c'était une jeune fille que j'avais connue au Texas, qui s'est retrouvée enceinte hors mariage, et puis comme elle était chrétienne très engagée, elle voulait pas affronter... Bon, il y avait plein de raisons qui fait qu'elle voulait pas accoucher au Texas, elle a profité d'un passage en Europe, et du coup je me suis retrouvé avec cette jeune femme qui parlait pas français et qui était enceinte. Et ça m'a fait penser un peu à ce que Joseph avait vécu. Et... elle avait attrapé un virus pendant sa grossesse, j'ai dû l'emmener à l'hôpital, et puis elle était inquiète de savoir est-ce que ça peut avoir une conséquence pour le bébé. Et le médecin lui a dit, oh, vous en faites pas, il n'y a aucun problème, vous pouvez être malade, vous allez trinquer peut-être au maximum, mais le corps est fait pour protéger au maximum le bébé. Il y a un ouvrage bouleversant que je vous conseille, alors je ne sais plus le titre du livre, ça doit être « J'ai donné naissance à un bébé à Auschwitz ». Vous avez entendu parler de ça, c'est une de ces femmes, il y a eu quand même plusieurs milliers de cas de femmes enceintes qui ont dû accoucher dans les camps de concentration. C'est rarissime que le bébé a survécu. Elle part en camp de concentration, je ne sais pas si elle vient juste de savoir qu'elle est enceinte. Et ils font de la résistance, elle et son mari. Donc lui, il est emmené, il va mourir. Elle ne sait pas, elle ne saura qu'après la guerre qu'il est mort. Donc elle espère le retrouver. Et elle sait qu'elle porte la vie dans un camp de concentration. Je ne sais pas, mais ce livre, il faudrait... Elle existe, elle a fait des conférences, cette femme. Elle raconte comment c'est l'espérance de cette vie qui l'a fait tenir durant le camp de concentration. Et c'est beau de voir l'intimité qu'elle a. Elle sent que son petit bébé est caché au plus profond d'elle. Et c'est pour ça qu'elle veut vivre. Puis elle sent que ce bébé, il prend le meilleur d'elle. Enfin, ce bouquin, c'est dingue. En plus, elle n'est même pas croyante. C'était une femme communiste. Enfin, mais son livre est bouleversant de témoignages de ce que c'est que le mystère de la vie, le mystère de la maternité, de la grâce de Dieu qui a en ça, même dans les pires situations. Et c'est magnifique comment les autres femmes dans le camp de concentration se sont entraidées pour faire vivre ce bébé. C'est un vrai miracle, ce bébé. C'est tous ces mystères que la Vierge Marie a portés dans son cœur parce qu'elle est co-rédemptrice avec Jésus, elle est médiatrice de toute grâce. Et donc c'est toute notre humanité qu'elle porte avec Jésus. Alors je voudrais, il nous reste juste quelques minutes, en fait j'ai même passé l'heure d'ailleurs, 3 heures. Bon, j'aurais voulu terminer, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une magnifique méditation sur le fiat de la Vierge Marie par Saint Bernard, qui se trouve donnée au 20 décembre dans le livre des lectures, je vous l'ai dit. Tu l'as entendu, ô Vierge, tu concevras un fils, non d'un homme, tu l'as entendu, mais de l'Esprit Saint. L'ange, lui, attend ta réponse. Il est temps pour lui de retourner vers celui qui l'a envoyé. Nous aussi nous attendons, ô Notre-Dame. Accablés misérablement par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Or voici, elle t'est offerte, la rançon de notre salut. Consent, et aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous avons tous été créés. Hélas, la mort fait son œuvre en nous. Une brève réponse de toi suffit pour nous recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie. Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis avec sa malheureuse descendance. Il l'implore Abraham, il l'implore David, il la réclame tous instamment, les autres patriarches, tes ancêtres, qui habitent eux aussi au pays de l'ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes genoux, suspendu aux lèvres de la Vierge Marie. Mais ce n'est pas sans raison, puisque de ta parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d'Adam, de ta race entière. Ne tarde plus, Vierge Marie, vite réponds à l'ange, ou plutôt par l'ange réponds au Seigneur, réponds une parole et accueille la parole. Prononce la tienne et conçois celle de Dieu. Profère une parole passagère et étreins la parole éternelle. Pourquoi tarder? Pourquoi trembler? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité confiante. Certes, il ne convient pas en cet instant que la simplicité de ton cœur virginal oublie la prudence. Alors, la prudence, je termine là-dessus. Sachez bien que c'est ça qui a l'héroïcité de l'acte de foi de la Vierge Marie. Concevoir hors du mariage, c'est s'exposer à la honte, c'est se mettre en danger de mort, selon la loi de Moïse. Il y a un aspect héroïque dans la foi de Marie. Pas un instant, elle se met à dire, mais attends, faut d'abord que j'en parle à Joseph, faut d'abord que j'en parle à mes parents. Mais on rigole, mais c'est ça, ce serait la prudence humaine, le moindre de la prudence humaine. La Vierge Marie, elle est tellement à Dieu, elle appartient tellement à Dieu. Vous voyez, je pense que quand dans la barque, quand les apôtres sont pris dans la tempête, ils commencent à paniquer et Jésus dort sur un coussin. La Vierge Marie serait à dormir avec Jésus dans la paix. Elle aurait été là et ne se serait pas agitée avec les apôtres. Hein. Parce que elle est totalement recueillie en Dieu. C'est cette grâce qu'il faut lui demander, que Jésus règne dans notre cœur, qu'il soit le roi de notre cœur, pour qu'on soit dans la paix profonde et qu'on ne se laisse pas distraire par des choses secondaires, qu'on soit appliqué d'abord à l'accueil de la volonté de Dieu, à l'accueil de son amour et de la victoire de son amour. Il nous aime, nous lui appartenons et c'est ce que nous allons laisser l'Esprit Saint redire dans notre cœur avec la Vierge Marie dans cette adoration. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.